Il faut s'imaginer un instant que l'avenir spirituel et même historique de l'humanité repose sur les épaules d'une seule famille.
C'est une sacrée responsabilité, ouais.
Sauf que, il faut aussi imaginer que cette même famille est profondément rongée par la lâcheté, le meurtre et la tromperie la plus totale.
Ah, le tableau est tout de suite moins idyllique.
C'est clair. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on passe au crible les notes de la 20e session du docteur Kenneth Matthews sur le livre de la Genèse.
Des notes qui couvrent en fait les chapitres 34 à 37.
Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser une question un peu vertigineuse. Comment un héritage massif, une alliance qui est censée changer le monde, parvient à survivre à travers les âges?
Alors que ceux qui la portent font tout pour la détruire de l'intérieur, c'est ça?
Mais carrément. D'accord, décortiquons tout cela. Parce que pour quiconque s'attendrait à écouter une belle histoire idéalisée, remplie de héros parfaits qu'on pourrait placarder dans une école, le choc va être frontal.
Faut dire qu'on s'éloigne complètement de l'image d'Épinal, là. Hein. On plonge dans une réalité qui est désordonnée, super violente et franchement dérangeante.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et c'est pour ça qu'il faut aborder ces textes avec une grande lucidité, sans essayer de polir les angles vifs, tu vois. Ces chapitres précis marquent un vrai point de bascule historique.
Un point de bascule, genre la fin d'une époque ?
Tout à fait. C'est littéralement l'agonie de l'ère des grands patriarches. D'ailleurs, la structure même des notes du docteur Matthews met en évidence quatre enterrements majeurs.
Ah ouais, quatre enterrements d'affilée. Ça scelle le passé de manière assez définitive.
C'est exactement ça. Et en même temps, le texte nous montre le passage de relais vers l'avenir. Mais attention, c'est pas une belle cérémonie élégante, hein.
Non, j'imagine bien.
C'est un transfert atrocement chaotique vers les 12 fils de Jacob. Une transition qui, en fait, se fait dans le sang et la crise.
Et c'est justement ce qui rend cette analyse hyper pertinente pour ceux qui nous écoutent. Si on cherche à comprendre comment se forment les grandes institutions ou les nations, il faut étudier ces moments de crise aiguë.
Ces moments où les fondations semblent s'effondrer, ouais.
Voilà, quand la corruption interne menace de tout faire péter. Mais avant de parler de l'avenir de cette lignée, il faut d'abord regarder l'incident tragique qui fait voler leur paix en éclats.
Le fameux point de rupture à Sichem.
C'est ça. Au début, le décor semble pourtant idyllique. Jacob revient de Paddan Aram, il est survécu à des épreuves folles, il a lutté avec Dieu à Péniel.
Il a même évité un bain de sang avec son frère Ésaü.
Ouais, un vrai miracle. Du coup, il arrive en Canaan, dans la région de Sichem. Il achète un bout de terrain au fils de Hamor pour 100 pièces d'argent et il érige un hôtel.
L'hôtel qu'il nomme El Elohei Israël, le Dieu d'Israël.
On a vraiment l'impression d'un homme qui a enfin trouvé la paix, non?
En surface, le tableau est parfait, c'est sûr. Établir cet hôtel, ça s'inscrit dans la lignée d'Abraham et d'Isaac. C'est une déclaration de foi publique.
Hippos et Varis, quoi.
Il s'ancre territorialement avec toute sa grande famille. Mais l'ironie, c'est que cette installation aux abords de Sichem, c'est un piège.
Comment ça?
Au lieu de poursuivre vers Bethel comme Dieu lui avait demandé, il se complaît à la lisière de la culture cananienne. Ça lui donne un faux sentiment de sécurité.
Et cette tranquillité illusoire va voler en éclats.
D'une manière d'une violence inouïe, oui.
Le chapitre 34 s'ouvre sur une tragédie absolue. Dina, la fille de Jacob et de Léa, sort pour visiter les femmes de la région. Et c'est là que Sichem, un prince local, la repère.
Les notes de Matthieu s'attardent d'ailleurs sur la brutalité du texte source. Il l'a prise, il l'a violée et humiliée.
C'est terrible. Mais ensuite, le récit prend une tournure psychologique super déconcertante. Après ce crime, la source nous dit que Sichem s'attache à elle.
Il tombe amoureux d'elle, entre guillemets.
Ouais, il veut l'épouser. Du coup, il demande à son père, Hamor, de lancer des tractations diplomatiques pour régulariser tout ça.
Et c'est là que la réaction en chaîne catastrophique commence. Et ce qui est fascinant ici, c'est la réaction de Jacob.
Ou plutôt sa non-réaction. Hein.
Exactement. Son absence terrifiante de réaction. Le docteur Matthews souligne le recul spirituel vertigineux de Jacob à ce moment-là. Il apprend que sa fille est séquestrée et que fait-il?
Il se tait. Le texte dit juste qu'il se tait.
C'est une abdication totale. Cet homme, qui a eu l'audace de lutter physiquement avec Dieu toute une nuit, refuse d'affronter un prince local pour sauver sa propre fille.
Il abandonne son leadership moral pur et simple.
Par peur, oui. Il attend le retour de ses fils des pâturages.
Tu sais, en lisant ces notes, l'image qui m'est venue, c'est celle d'un grand PDG d'une multinationale face à un scandale interne.
Ah, je vois le genre.
Imagine le dirigeant qui découvre un cas d'abus grave dans sa boîte. Mais au lieu de protéger la victime, il panique pour ses relations publiques.
Il regarde le cours de la bourse, quoi.
C'est ça. Il s'inquiète de son image de marque, il a peur que les concurrents l'écrasent. Jacob agit exactement comme ce PDG. Il a tellement peur des Cananéens que la souffrance de Dina devient secondaire.
C'est une très bonne image. Mais en fait, c'est encore pire qu'un PDG. Parce que Jacob ne gère pas juste une entreprise économique.
Bah oui, il porte l'Alliance divine.
Voilà, une alliance censée bénir le monde entier. Et sa seule préoccupation, c'est la survie de son statut. Et il y a une loi immuable dans la dynamique des groupes.
Laquelle ?
Le silence de l'autorité crée toujours un vide béant. Puisque Jacob refuse d'agir, ce sont ses fils qui vont s'engouffrer dans ce vide.
Et ils vont pas faire les choses à moitié ?
Ah non. Ils vont utiliser les pires instincts de la nature humaine et élever la fameuse tromperie familiale à un niveau d'horreur inédit.
Leur clan se met en place quand Amor vient négocier. Sur le papier, il propose un truc incroyable. Il dit un peu « mariez-vous avec nous, fondez-vous dans notre peuple ».
L'offre de l'intégration totale. Accès aux terres, commerce libre, enrichissement.
Sauf que les fils, surtout Siméon et Lévi, les frères de Dina, répondent avec tromperie. C'est le terme exact de la source.
Parce que cette offre, théologiquement parlant, c'est le piège par excellence. Matthews insiste lourdement là-dessus.
L'assimilation, c'est dangereux pour eux à ce stade.
Dans le contexte du Pentateuque, l'assimilation par le mariage avec les Cananéens mène invariablement à l'idolâtrie. C'est la mort spirituelle de l'identité d'Israël.
D'accord. Donc ils refusent, mais pas pour des raisons nobles.
D'un cynisme absolu.
La circoncision au chapitre 17 s'est instaurée comme le symbole sacré et intime de l'alliance avec Dieu. Et là, ses frères prennent ce sacrement pour en faire, littéralement, une arme de destruction massive.
C'est une arme biologique, en fait. C'est l'analyse exacte de la situation. On touche au point culminant de leur décadence morale.
C'est dur à lire, honnêtement.
Le docteur Matthews utilise une comparaison très contemporaine pour illustrer ça. Imagine un leader religieux, aujourd'hui, qui détournerait des fonds sacrés destinés aux pauvres juste pour financer du terrorisme.
Ah ouais, l'abus ultime du sacré.
Exactement. Ce qui devait être la marque indélébile de l'amour de Dieu devient l'instrument d'une vengeance génocidaire.
Et le pire, c'est que ça marche. Les hommes de Sichem acceptent l'accord.
Probablement aveuglés par l'avidité, oui. L'envie de s'accaparer les richesses de Jacob.
Donc toute la population masculine se fait circoncire. Et le troisième jour, bam, le piège se referme.
Au moment où la douleur physique est à son paroxysme, oui.
Siméon et Lévi rentrent dans la ville et ils n'exécutent pas juste le coupable. Il tue absolument tous les hommes. Il pille tout, capture femmes et enfants, c'est l'anéantissement total.
Un massacre complet. Et quand Jacob les confronte, enfin, c'est même pas pour leur reprocher les meurtres.
Non, il gémit juste sur son image. Il dit qu'il est devenu odieux aux yeux de ses voisins.
Et la justification des frères est glaçante. Ils lui répondent « Ne devait-il traiter notre sœur comme une prostituée ?»
Une phrase choc.
C'est la démonstration d'une justice totalement pervertie par l'orgueil. Ils utilisent la souffrance de Dina comme bouclier rhétorique pour justifier une vendetta démesurée.
Donc on se retrouve avec un patriarche lâche et des fils meurtriers sans remords.
Voilà. C'est une impasse théologique sévère. Comment cette lignée peut-elle encore porter le salut du monde ?
Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Logiquement, ça devrait être la fin de l'histoire. Game over. L'expérience a échoué.
C'est ce qu'on pourrait croire.
Mais la solution vient de l'extérieur. Dieu brise le silence et ordonne à Jacob de retourner à Bethel, le lieu de sa première rencontre spirituelle.
Mais il y a une condition avant de partir, une purification interne.
Jacob ordonne à tout le monde de remettre les dieux étrangers, y compris les idoles que sa femme Rachel avait volées des années plus tôt. Il enterre tout ça sous un chêne à Sichem.
Il enfouit littéralement le passé idolâtre.
Moi, j'aime bien voir ça comme un hard reset, une réinitialisation matérielle sur un ordi infecté, tu vois ?
La métaphore informatique fonctionne très bien, oui.
La famille de Jacob, c'est un système d'exploitation bourré de malware. Une simple mise à jour ne suffit plus. Faut enfouir le code corrompu, formater le disque et redémarrer la machine à Bethel.
Et le redémarrage à Bethel nettoie bien le logiciel spirituel, l'alliance est réaffirmée. Mais attention, le matériel physique, lui, porte encore les cicatrices.
C'est ça. Mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble, comment ils ont survécu au trajet jusqu'à Bethel, après ce massacre ?
C'est là qu'on voit la grâce de Dieu agir. La source précise qu'une terreur de Dieu s'abat sur les villes environnantes. Personne n'ose les poursuivre.
C'est totalement contre-intuitif en vrai. On s'attendrait à ce que Dieu les laisse assumer les conséquences de leurs crimes de guerre.
Mais Dieu les protège par pure fidélité à ses propres promesses, pas à cause de leur mérite bien sûr.
C'est fascinant.
Matthews fait un parallèle brillant avec le psaume 130 ici. « Du fond de l'abîme je t'invoque. Si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister ?»
En gros, Dieu les prend tels qu'ils sont, dans leur noirceur, pour préserver son plan.
Exactement. Il ne cautionne pas le massacre, mais il amorce un processus de transformation qui va prendre des décennies jusqu'à leur vraie repentance face à Joseph, bien plus tard.
Arrivé à Bethel, Dieu confirme le changement de nom. Jacob devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. Une nouvelle ère s'ouvre, mais comme tu disais, le matériel est toujours abîmé.
C'est pas magique, non ?
Enterrer des statuettes, ça répare pas la nature humaine. Et les chapitres suivants nous le montrent bien, avec de nouvelles ombres.
Le texte est implacable là-dessus. On a une nouvelle trahison, cette fois de Ruben, le fils aîné.
Il commet l'inceste avec Bila, la concubine de son père. C'est d'une immoralité crasse.
Mais dans l'ancien Proche-Orient, c'est surtout un acte hautement politique.
Une tentative de coup d'État interne, en fait, hein ?
Absolument. En faisant ça, Ruben tente d'usurper l'autorité de son père vieillissant pour s'imposer comme le nouveau chef.
Un peu comme Absalom le fera avec le roi David plus tard.
C'est le même schéma, sauf que le résultat, c'est qu'il se disqualifie définitivement de sa position de premier-né. La trajectoire des bénédictions divines va glisser vers les fils de Joseph.
Le chaos humain force des détours dans le plan divin, en somme ?
Toujours, oui. Et ce chaos s'accompagne d'une profonde mélancolie. Le texte enchaîne les décès.
La mort de Déborah, la nourrice, puis la mort tragique de Rachel qui meurt en donnant naissance à Benjamin, le 12e fils. L'équipe des 12 est complète, mais dans le deuil.
Et enfin, le chapitre se clôt sur la mort d'Isaac. Jacob et Ésaü l'enterrent ensemble. L'ère des pères fondateurs est officiellement terminée.
Et juste après ces tombes, le chapitre 36 change de focus. Il dresse la généalogie d'Ésaü, la nation d'Édom. Et il y a ce détail frappant.
Lequel ?
La source précise qu'Édom a eu des rois bien avant qu'aucun roi israélite ne règne. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi s'attarder sur le succès politique d'Édom juste après le désastre de Jacob ?
Ce contraste est très intentionnel. Il est prophétique et didactique pour l'audience de l'époque.
Pour leur montrer quoi ?
Qu'une bénédiction divine ne se traduit pas toujours par un succès politique immédiat. Voir Édom réussir avant eux, ça créait une tension pour les anciens Israélites.
J'imagine bien, ouais.
Mais ça annonçait aussi qu'un roi finirait par émerger de cette famille brisée, de la lignée de Juda jusqu'à David. Le texte prouve que le plan avance, malgré les détours désastreux.
C'est une synthèse incroyable. On est passé de la lâcheté de Jacob au massacre commis par ses fils, puis à la purge radicale sous Shen, et enfin à la réorganisation dynastique causée par Ruben.
On a vraiment navigué dans les eaux les plus troubles de la nature humaine, c'est clair.
Ce décryptage nous rappelle une chose essentielle. Le progrès d'une vision, c'est presque jamais une belle ligne droite ascendante. Les fondations sont rarement immaculées.
L'histoire humaine est portée par des gens profondément imparfaits, souvent égoïstes. Et la Genèse a l'audace de ne rien cacher.
C'est ça qui est fort.
La leçon centrale de Matthieu, c'est que l'héritage survit souvent malgré l'humanité de ses porteurs. C'est la grâce qui maintient le tout.
Et ça nous amène à une dernière réflexion, qui résonne pas mal avec notre monde d'aujourd'hui. On a vu Ésaü et Édom atteindre le succès et la stabilité de manière fulgurante, bien avant Israël.
Une réussite très précoce, oui.
Pour ceux qui observent comment les institutions ou les entreprises se construisent aujourd'hui, ça soulève une vraie question. Est-ce que le succès politique précoce et l'apparence de stabilité sont vraiment les garanties d'une victoire à long terme ?
C'est une excellente question.
Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'un développement lent, douloureux, bourré d'échecs et de luttes internes comme celui de Jacob, ne serait pas parfois la forge indispensable pour bâtir un héritage capable de traverser les millénaires ?
Une forge douloureuse, mais nécessaire.
Exactement. C'est une idée qui invite à regarder au-delà des apparences de la réussite immédiate. À méditer bien après la fin de cette écoute. À la prochaine!